Écoute des réfés, il est 22h ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Loïc Bussière.
Bonsoir à tous et bienvenue pour votre journal en français facile. À la une, ce soir, un nouveau dimanche sous le signe de la contestation en Biélorussie. Manifestation dans les rues de Minsk pour protester contre la réélection d'Alexandre Loukachenko. Présente également de nombreuses forces de l'ordre. Seule réponse du gouvernement biélorusse. Les prémices peut-être d'un apaisement en Méditerranée orientale où Ankara et Athènes se livrent à un bras de fer pour le contrôle de zones riches en hydrocarbures. Le navire turc à l'origine de la brouille a regagné ses côtes ce week-end. Les explications dans un instant. Et puis en France, la mort de Bernard Debré, ancien ministre, grand nom de la médecine et membre d'une famille marquée par la politique. Il avait 75 ans.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Et tout d'abord donc ce bras de fer entre Ankara et Athènes en Méditerranée orientale et peut-être les premiers signes d'un apaisement entre les deux pays, la Turquie et la Grèce, qui se disputent la souveraineté de zones potentiellement riches en hydrocarbures. Alors que l'escalade récente avait été provoquée par le déploiement d'un navire de recherche sismique turc dans des eaux revendiquées par la Grèce, ce navire a regagné la côte turque ce week-end. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
La mission du navire turc Rouchreis, chargée de prospecter des hydrocarbures au large de l'île grecque de Castellorizo, avait été prolongée 3 fois depuis le 10 août. Rien n'empêchait la Turquie de la prolonger une fois de plus, malgré les protestations de la Grèce. Au lieu de cela, le Rouchreis est rentré au port et Athènes a salué un premier pas positif. S'il est encore trop tôt pour parler d'apaisement, c'est la première fois depuis des semaines que la tension baisse d'un cran entre les voisins grecs et turcs. Certes, la Turquie n'exclut pas de redéployer son navire dans cette zone contestée située à 2 km de ses côtes. Il y aura des allers-retours, il n'est pas question de renoncer à nos droits, a déclaré son ministre de la Défense, Hulusi Akar, en visite dans la ville balnéaire de Kaş, située juste en face. Mais le ministre turc a aussi appelé au dialogue lors de ce déplacement. « Nous souhaitons vraiment arriver à une solution par des méthodes pacifiques », a-t-il assuré, avant d'accuser la France de mettre de l'huile sur le feu et de pousser la Grèce dans une course à l'armement. La veille, Athènes avait annoncé un programme d'achat d'armes incluant des avions de combat français. Anne Andlauer, Istanbul, RFI.
Voilà une également la mobilisation populaire qui ne faiblit pas. En Biélorussie, nouvelle manifestation ce dimanche à Minsk pour dénoncer de nouveau la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko il y a un mois. Ce dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont encore une fois répondu à l'appel de l'opposition, une véritable marée humaine qui a envahi les rues de la capitale et à laquelle les autorités répondent d'une seule manière. En montrant les muscles, la police a arrêté plus de 600 personnes à travers le pays, selon le ministère de l'Intérieur, Sami Bouklifa.
Un quatrième dimanche de protestation et encore une fois, la mobilisation populaire est impressionnante. Partie des différents quartiers de Minsk, les manifestants ont défilé à travers les rues de la capitale. Brandissant des drapeaux blancs barrés d'une bande rouge, les couleurs de l'opposition, ils ont finalement formé un immense cortège long de plusieurs kilomètres jusqu'à atteindre le palais présidentiel. Face à eux, un important dispositif de sécurité. Canons à eau, véhicules blindés, fils barbelés, l'armée a été déployée tout autour des bâtiments stratégique. La répression est très vive, les arrestations se multiplient et l'opposition dénonce une politique de la terreur. À la tête du pays depuis 26 ans, le président Alexandre Loukachenko clame haut et fort avoir été réélu en août dernier avec 80% des voix. Selon lui, ces milliers de protestataires dans la rue sont dirigés depuis l'étranger. Il dénonce un complot occidental. Il se tourne vers son puissant voisin russe. Il compte sur l'appui de Moscou afin de se maintenir au pouvoir.
En Russie, on votait ce dimanche pour les élections régionales en pleine affaire. Navalny, l'opposant numéro 1 au Kremlin, victime présumée d'un empoisonnement en pleine campagne électorale. Le scrutin se déroule depuis vendredi et sur 3 jours avec des bureaux de vote en plein air, officiellement pour limiter les risques liés au coronavirus. Une méthode qui, pour l'opposition, favorise les fraudes. L'actualité de ce dimanche est aussi cette déclaration signée du président du Conseil européen. Il est temps pour le gouvernement gouvernement britannique de prendre ses responsabilités. Charles Michel qui exhorte sur Twitter Londres à mettre en œuvre l'accord déjà signé car, dit-il, la crédibilité internationale de la signature du Royaume-Uni est en jeu. Cette déclaration intervient à l'orée de la reprise des négociations post-Brexit et alors que le gouvernement britannique a présenté cette semaine au Parlement un projet de loi qui contredit en partie l'accord déjà signé encadrant sa sortie de l'Union européenne.
Le journal en français facile.
L'actualité en France à présent est là, la dégradation manifeste de l'épidémie du Covid-19. Les mots prononcés vendredi par Jean Castex se vérifient en chiffres avec ce cap symbolique franchi hier, celui des 10 000 nouvelles contaminations par jour. Un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays. Il faut siffler la fin de la récréation, réagissent dans le JDD plusieurs médecins qui demandent d'éviter les rassemblements privés. D'autres spécialistes sont plus mesurés. Le professeur Alexandre Bleptreux est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Ce que ça montre, ces 10 000 cas par jour et la situation actuelle, et on connaît la dynamique de l'épidémie, avec cette progression qui peut devenir exponentielle rapidement, c'est que c'est une alerte. On est à un niveau de patients hospitalisés qui est pour le moment encore bas, et ça dépend vraiment des régions, mais on sait que ça peut basculer très rapidement. Donc on est vigilant, mais on n'est pas paniqué. On parle de 17 nouveaux morts en 24 heures, c'est 17 morts de trop. Mais ce n'est pas des chiffres de la même intensité qu'au pire de la première vague. Mais encore une fois, si on a en tête qu'on va éviter toutes les contaminations et tous les morts liés à ce virus, je pense qu'on se trompe. Voilà, il faut qu'on apprenne à vivre avec, essayer de maintenir un système de santé réactif et disponible pour prendre en charge les gens sans le saturer et sans arriver à la situation de confinement que personne n'a envie de revivre. Et on ne peut pas mettre sous cloche le monde pendant un an et demi, ou sinon il risque de ne pas rester grand monde à la fin.
Le professeur Alexandre Bleptreux, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, joint par Lucie Bouteloup. Et puis toujours en France, on apprend ce soir la mort des suites d'un cancer de Bernard Debré, ancien ministre et ex-député de droite. Il fut notamment en charge de la coopération dans le gouvernement d'Édouard Balladur et député d'Indre-et-Loire sous l'étiquette RPR, devenu UMP puis Les Républicains. Fils de Michel et frère de Jean-Louis, Bernard Debré était également un grand nom de la médecine. À la tête du service d'urologie de l'hôpital Cochin, il avait 75 ans.
Le journal en français facile.
L'actualité des sports à présent avec la finale homme de l'US Open de tennis à New York. Finale à huis clos, donc sans spectateurs, comme beaucoup d'autres pour cause de Covid. Elle oppose l'Autrichien Dominic Thiem à l'Allemand Alexander Zverev. Le vainqueur remportera son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem, Olivier Pron.
Ils sont les fers de lance de celle que l'on appelle la next gen, la nouvelle génération, censée prendre la relève des trois monstres de la discipline depuis tant de temps, Federer, Nadal et Djokovic, 56 titres en majeur à eux trois. Ce dimanche donc, le vainqueur ouvrira enfin son palmarès en la matière. À 27 ans, Dominic Thiem est favori. Après un parcours sans embûches, un set perdu en 6 matchs, il a marché sur ses adversaires. L'Autrichien, numéro 3 mondial, a pour lui l'expérience. Il s'agit de sa quatrième finale en Grand Chelem. Les trois premières, perdues, lui ont, dit-il, beaucoup appris. Lauréat du Masters en 2018, Alexander Zverev va lui découvrir ce genre de rendez-vous, une finale dans l'un des quatre plus grands tournois de la planète. À 23 ans, le numéro 7 mondial en a bavé des ronds de chapeau pour en arriver là, pas un tour facile, jusqu'en demi-finale vendredi, où l'Allemand fut mené 2-0 par l'Espagnol Carreño Busta, avant de revenir et de l'emporter, de quoi refaire le plein de confiance, pas plus mal, avant d'affronter Dominator, le surnom peu engageant de son adversaire qu'il a battu 7 fois en 9 matchs jusqu'ici.
Olivier Pron, les sports toujours avec la 3e journée de Ligue 1 en football et le choc Paris-Marseille en clôture de la 3e journée. C'est l'OM qui mène à la mi-temps au Parc des Princes, 1-0, but de Thauvin pour les Marseillais. Enfin, un mot du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar a remporté la 15e étape entre Lyon et Grand Colombier. Son compatriote Primoz Roglic conserve le maillot jaune.